Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a toujours suivi avec grand intérêt les points de croisement entre cinoche et politique, la façon dont le premier regarde le second, dont les réals peuvent s'en emparer pour nous plonger dans les enjeux dramatiques de ce qui, au vu de nos écrans télé, nous paraît parfois terriblement plat et lointain. Et même si certains frôlent parfois sans même le vouloir la parodie, c'est toujours avec curiosité qu'on voit débarquer les projets tels que Vice, le nouveau film d'Adam McKay, auquel cet épisode sera consacré grâce aux 4 spin doctors de la critique réunis ici autour de la table. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
Stéphane Moïseki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Et David Honora, salut David.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 174 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Vice, donc, nous met sur les pas d'un personnage clé de la politique américaine au tournant des 20e et 21e siècles, Dick Cheney, incarné ici par un Christian Bale en full fat suit performance. Cheney qui fut l'un des artisans du virage néoconservateur de la droite américaine, en servant, ou plutôt en pilotant sans avoir l'air d'y toucher, un certain George W. Bush.
What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Au scénario et à la réalisation, on trouve donc Adam McKay, créateur, faut-il le rappeler, d'Anchorman, de Talladega Nights, du chef-d'œuvre absolu Step Brothers et plus récemment de The Big Short, dans lequel on trouvait déjà Christian Bale et Steve Carell qui rempilent tous les deux aux côtés d'Amy Adams, Sam Rockwell ou Alison Pill. Votre avis sur Vice, les amis? Bon, Julien, je vais pour une fois rompre cette tradition millénaire.
Tu veux
que je te donne la parole en premier?
J'ai lu
les pétitions. J'ai vu les
libérés
dans les livres que tu m'envoies. Enfin voilà, tous les messages ont fini par faire leur chemin. Donc c'est à Stéphane Moïse à qui je vais donner la parole en premier. Stéphane, ton avis sur Vice?
Alors, moi je trouve le film formidable, vraiment, et un bon, même par rapport à Big Short, là en termes de cinéma pur, quoi. C'est-à-dire que, parce que globalement, il faut peut-être préciser ce truc-là, on avait fait un petit extra sur The Big Short, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Adam McKay, même s'il fait des comédies, et notre temps, tu les as cités, a toujours fait des films politiques, en fait. Oui. Et même avant même, ses comédiens, quand il faisait du Saturday Night Live. C'est-à-dire que le fameux, président Bush incarné par Will Ferrell, c'était aussi des textes, d'Adam McKay, quoi.
Adam McKay, ouais.
Donc, sa position est assez claire. Il en fait carrément un gag dans le film, hein. C'est un libéral, il l'assume. Et quelque part, c'est très bien parce qu'au moins le mec, il joue pas sur, Il est assez clair et assez évident. Ce qui est assez formidable, moi, je trouve, avec le film, alors déjà, tu parlais de Christian Bale, c'est une vraie performance, c'est-à-dire que on sait que Christian Bale est un grand acteur, c'est même presque devenu limite un souci quelque part, en fait, parce qu'il y avait des moments où on pouvait le voir jouer. Là, on l'oublie complètement, ce qui n'est pas forcément le cas dans les petits défauts que j'accorderais au film de Steve Carell et de celui qui joue Georges
Sam Rockwell,
voilà. Que pour le coup, on est un petit peu dans la caricature là-dedans.
Un peu dans la parodie.
Et ce que je trouve assez formidable, c'est que pour un biopic de la sorte, en fait, là où il arrive à traiter l'histoire du personnage dans le micro, on va dire, dans ce que lui vit, et en fait dans le macro du pays, ce qui est assez formidable, en fait, c'est la façon dont il est extrêmement agressif sur la façon dont il représente ce personnage. Il y a de l'empathie pour Dick Cheney, ça, il y a pas de souci. Mais il y a aussi, en fait, il le démontre comme une sangsue, quoi, comme un espèce de vampire qui suce le sang de tout ce qu'il traverse, parce que par opportunisme, et pas tant par conviction presque politique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a carrément une phrase au début où il dit on est quoi, nous on est démocrates, on est républicains, c'est lesquels, je vais aller là. Et en fait, voilà, je me positionne là, je vais là, je fais ma carrière là.
Oui.
Et voilà. Et le truc qui est assez formidable là-dedans, c'est que l'agressivité du film vis-à-vis du personnage, elle est à la fois le fait de regarder ça sans masque, en fait, sans phare, mais il y a aussi, en fait, dans l'humour, à travers l'humour, parce que c'est un film qui fonctionne exactement comme The Big Short, qui va encore plus loin, moi, je trouve, dans cette démarche-là, fourre-tout, la méta, on va dire, pour aller vite, et qui est, en fait, de... Enfin, il y a une idée, alors, je spoil un peu, hein, mais voilà. Spoil, hein. Moi, il y a une idée que je trouve formidable, et qui est... Oui, mais qui est la... Non, alors, c'est pour le coup, c'est une histoire vraie. C'est un parti pris. Oui. Narratif.
C'est un gros spoil ce que tu vas faire. Faut quand même me dire aux gens. Voilà. Non, mais c'est un spoil que tu vois à la fin.
J'ai pas encore mon bouton spoiler alert, mais je l'ai commandé.
Très, très important.
C'est un spoil en fait qui pour moi, c'est pour démontrer l'agressivité larvée du film en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de, encore une fois, des événements, au-delà du fait que le type soit responsable, en gros, si tu veux, de la guerre en Irak, que le type en fait soit responsable par détournement, en fait, ce qui est présenté dans le film, la façon dont est présenté dans le film, qui est responsable de la naissance de Daesh et tout ça, etc., etc. En gros, qu'il soit aussi responsable de des politiques actuelles, enfin ce genre de choses, qu'il a ouvert la voie à ça. Il y a cette notion de parasite, de sensu en fait, qui est au centre de la narration, parce que le parti pris du film, c'est de raconter ça à travers un narrateur qui serait un citoyen lambda en fait des États-Unis, lui qui est pas nommé, qui apparaît physiquement et qui raconte à quel point en fait lui-même il dit je connais ce type parce que je suis lié à lui quoi. C'est-à-dire je connais Dick Cheney. Et pendant tout le film, la connexion se fait pas vraiment en fait, jusqu'à ce moment clé.
Qui est donc Jesse Plemons, hein,
qui
Kurt, le narrateur,
qui est un excellent acteur. Et le truc en fait qui est assez formidable, c'est que jusqu'au moment clé, on arrive à ce qui est censé être la fin de la vie de et le film te cueille assez bien parce que moi du coup qui n'avais pas forcément tous les détails, je me suis dit mais c'est-à-dire, on arrive au moment où Dick Cheney est censé mourir, parce qu'il est cardiaque, et en fait, c'est un truc qui est développé à travers tout le film, qui le montre vraiment, et d'ailleurs, ils en font des gags, en fait, littéralement, et c'est assez drôle. Arrive ce moment, donc, où tu comprends, en fait, que le narrateur, c'est le donneur, en fait, c'est la personne qui va donner son cœur à Cheney. Alors, ça peut être un gag, ça peut être, voilà, mais en fait, pour moi, en Loose Day, c'est surtout une manière de dire, voilà, ce type, en fait, se vampirise ceux qu'il est censé servir, en fait, littéralement, c'est-à-dire, et sans aucun remords, parce que c'est comme ça que c'est présenté même après, quoi. Et c'est assez fort, mine de rien, je trouve, de te faire suivre un personnage qui est quand même assez détestable. De te créer de l'empathie vis-à-vis de lui, y compris, alors t'as des détails sur sa vie privée avec sa fille qui est homo, donc et qui veut pas en jouer justement pour réussir dans la politique, et finalement ils en jouent quand même, enfin bref, t'as tout un tas de trucs comme ça, et de montrer à quel point finalement quand le mec il n'a même plus son cœur, à la fin il est encore pire qu'avant en fait, c'est ça qui est fou quoi, et parce qu'il s'est carrément nourri du peuple américain, et ce n'est pas un, comme ils appellent ça aux États-Unis, un public servant, quoi. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est-à-dire, il se nourrit de ça, quoi. Et pour moi, il est là le choix, en fait. C'est-à-dire, indépendamment des faits qu'il expose, le choix narratif, agressif, il est là, tu vois. C'est-à-dire, et il le fait dans une logique pince sans rire. C'est-à-dire, vraiment, comme il a l'habitude de le faire, comme il a l'habitude de traiter. Ces choses-là, on va dire, entre guillemets, à la légère, mais le film n'est pas du tout léger. Et après, bah, effectivement, il y a aussi un brio dans la façon de dévoiler, en fait, ces ruptures de ton, ces choses-là qu'on pouvait lui connaître plus facilement dans la comédie pure, c'est-à-dire les Anchorman, les trucs comme ça, mais qui, là, servent aussi le propos, quoi. C'est-à-dire, donc voilà, c'est un film qui... c'est un film qui est assez détonnant, assez. Ça ressemble un peu, ça émule le Oliver Stone de la grande époque, etc. Avec ça. Donc on ne peut pas non plus dire que ça soit totalement quelque chose qui émane de son fonctionnement, mais c'est un film qui est totalement incarné à travers ça, et moi c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que c'est vraiment. Intense et prenant, alors qu'à la base, c'est un sujet qui pourrait très facilement nous faire chier. Quoi. Oui.
Rafik ?
Alors, beaucoup de points de désaccord avec mon collègue Stéphane.
Ça, c'est parce que tu es droite.
Parce que je suis droite, déjà, pour commencer. Il faut quand même poser les choses et avancer son masque. Moi, j'avais été très agréablement impressionné par The Big Short, parce que c'est un film qui, à l'époque, m'apparaissait comme plutôt courageux, au sens où c'était un événement dont les gens n'avaient pratiquement pas conscience ou connaissance, qui leur mettait un peu, alors ils mettaient pas tout sur la table, mais quand même ils en mettaient suffisamment pour qu'on commence à se questionner, quoi. Et je trouvais ça quand même, je me dis merde, il fallait chercher du côté de la comédie pour avoir des mecs qui osent aujourd'hui faire ce type de cinéma politique. Autant je reconnais que Vice bénéficie des mêmes atouts et atours techniques. C'est un film qui est extrêmement bien fait. Le travail notamment de leur monteur, son nom m'échappe à chaque fois, Hank Corwin, enfin, c'est un boulot assez extraordinaire de montage. Et ça fait du bien de que les mecs viennent un peu foutre un coup de pied dans la fourmilière du cinéma politique américain, qui n'en finit pas de crever sous les assauts des Robert Redford, des Meryl Streep, pas encore à la retraite depuis les 70s, qui vraiment, on l'a oublié, hein, mais nous ont livré des films au début des années 2000, en pleine d'ailleurs, pendant cette fameuse présidence-là, qui était tout simplement embarrassant et honteux, quoi, et donneur de leçons et tout ce que tu veux. Là, c'est pas le cas. Par contre, autant je reconnais cette excellente exécution, autant, à l'inverse de The Big Short, j'ai l'impression d'un film qui table un peu plus sur l'amnésie de son public que de l'obliger à se souvenir des choses. Décider de faire la bio d'un fils de pute, c'est un excellent exercice. On te le montre. Collaborer à ce fils de pute qui était Donald Rumsfeld, sous ce fils de pute qui était Nixon, pour ensuite passer au fils de pute qui était Ronald Reagan. Jusqu'à arriver au fils de pute George W. Bush. Ça, j'arrive à suivre. Du coup, j'ai du mal à comprendre pendant le film pourquoi le fils de pute Jimmy Carter passe complètement entre les gouttes. Il est présenté en gros comme un benet qui fait déblimer des panneaux solaires sur la Maison Blanche et ça se limitera à ça. Et surtout, pourquoi George Bush père est une présence quasi fantomatique alors que c'est quand même celui qui a posé ces deux mecs-là vraiment définitivement sur l'échiquier et qui en plus de ça dépasse en fils de puterie tous les autres qu'on a pu citer, quoi. C'est-à-dire, en gros, je vais te parler de Dark Vador, mais l'empereur Palpatine, il n'existe pas dans mon film. Donc ça, je trouvais ça quand même assez extrêmement troublant, sans compter que je suis encore toujours un petit peu agacé qu'on continue à présenter W comme un abruti, voilà, qui faisait de la politique par intermittence. Qu'on continue à nous faire croire encore aujourd'hui qu'on devient président des États-Unis en ayant zéro de QI, ça me pose toujours un petit problème. Donc, dans le film, ils insistent énormément sur un point, et je pense que c'était effectivement bienvenu, qui est celui de la façon avec laquelle un groupe d'avocats a travaillé pendant des années sous la direction de Cheney pour tordre la Constitution et permettre justement cette prise de pouvoir et faire passer la République américaine à l'état quasiment d'empire romain nouvelle sauce au lendemain du 11 septembre. Et donc, on nous explique bien la méthode, enfin bien, on nous suggère bien que c'est une méthode qui consiste à tordre les faits, en fait, et à tordre les mots pour leur faire dire autre chose que ce qu'ils veulent dire. Et en même temps, le film, je trouve que, contrairement à ce que affirmait Stéphane, n'assume jamais son côté partisan.
Il en fait un easter egg à la fin. Hein.
Et se rend d'une certaine façon coupable de la même méthode, qui est justement de sélectionner les faits pour justement nous créer une narration qui arrange les sympathies politiques de ceux qui l'ont fait. Pourquoi George Bush père est laissé de côté? Tout simplement parce que sa politique sociale n'était pas trop à l'encontre de celle des démocrates. Mais toutes les saloperies faites par ailleurs passent complètement à la trappe. Là, je suis obligé de mettre un spoil, encore une fois, c'est que l'après-film, donc c'est ce que Julien disait tout à l'heure, il y a une séquence post-générique, enfin, ou pendant le générique, où on découvre...
Julien le disait hors antenne, je suppose.
Comment ?
Julien le disait hors antenne, je suppose, parce que Julien n'a pas encore parlé.
Parce que Julien ne veut pas spoiler. qui nous ramène à un groupe d'études qu'on a déjà vu dans le film, un panel, en fait, qui en gros devient le panel des spectateurs qui viennent de voir le film et qui le jugent. Et où on a un gros beauf moustachu mal fringué qui, évidemment, on l'imagine, est un électeur de Donald Trump et qui commence à dire qu'il veut quand même c'est quand même un film de gaucho qu'on vient de se taper. Et il y a, et là, la caricature m'a sauté à la gueule, un jeune homme à lunettes bien fringué, bien coiffé, typiquement l'intellectuel new-yorkais de base, qui le prend, quoi, et qui lui dit, bah, quand même, ce sont des faits qui ont été exposés, et évidemment, le gros bouffe de connard d'abruti à zéro de QI d'électeur de Bush défonce la gueule du brave, du brave libéral new-yorkais. Enfin, on est,
ouais, alors moi,
c'est ultra caricatural comme
c'est
truc.
C'est ultra caricatural parce que le film l'est, mais le truc, c'est que, indépendamment de ça, parce que je dis encore une fois, la façon.
Attends, je finis juste mon truc. Et dans la défense, de dire ça n'est que des faits qui ont été présentés, et tu t'imagines bien que pour faire un film comme ça, on s'est blindé avec une batterie d'avocats. C'est-à-dire, en gros, t'es en train de me dire que pour faire ce film-là, t'as fait exactement la même chose. Tu t'es aussi réfugié derrière une batterie d'avocats qui ont bien fait gaffe à ce que tous les faits que tu présentes soient complètement valides. Mais à la façon des avocats que tu m'as mis en scène pendant tout le film, tu fais dire à l'histoire un peu ce que tu voudrais, ce qui t'arrange, quoi.
Ouais, mais ça, c'est voilà. Ça le parti pris. Enfin, là,
en l'occurrence, c'est le fait film. De pas assumer. Ça.
Moi, je pense qu'il l'assume assez bien dès le début. C'est même sa première phrase. Ouais, hein. Voilà. C'est sa première phrase d'ouverture. La phrase d'ouverture, c'est on a fait tout ce qu'on a pu pour trouver de la merde, en fait, si tu veux, sur ce mec, tu vois, parce que c'est un des mecs les plus secrets.
Il suffit de se baisser pour trouver de la merde sur Dick Cheney.
Peut-être pas jusque-là. Et puis encore une fois, il t'encapsule le film là-dedans. C'est un film partisan et c'est assumé comme tel. Je sais pas, t'attendais quoi? T'aurais aimé avoir plus d'objectivité?
Non,
en fait
pas de l'objectivité, mais alors c'est peut-être être rêveur que d'espérer à quelque chose de la valeur de ce que les mecs de South Park peuvent faire quand ils s'attaquent à des trucs politiques, c'est-à-dire à vraiment taper sur tout le monde et à nous obliger à prendre un recul. Je dirais de 40 000 pieds de haut, quoi, sur ce qui se passe. Là, comment dire, on présente un Dick Cheney au début qui sait même pas s'il doit aller du côté des démocrates ou des républicains. Il voit même pas la différence et personne autour de lui ne voit la différence et tout. Ok, ça, je peux l'entendre. Mais en même temps, le film te déroule un truc pour le coup partisan qui te fait encore croire à cette éternelle alternance politique démocrate-républicain. Là, on sait tous un peu qu'ils se passent tous la balle, quoi, les uns après les autres, et que les administrations récupèrent la merde de la précédente pour le voilà. On a tout un truc sur la surveillance qui a été initiée effectivement par cette administration à partir du Patriot Act et tout ça, sans à aucun moment jeter les graines de ce que l'administration suivante, c'est-à-dire celle d'Obama, va nous faire. Le sénateur John McCain qui a bossé avec Cheney, il disparaît complètement de ce truc, alors qu'il est le lien le plus fort entre l'administration Bush et l'administration Obama, et dans la gestion notamment de ces groupes terroristes, etc. Enfin, c'est encore une fois, il peut pas tout mettre, on peut pas tout raconter, mais on voit quand même que t'as sélectionné les événements qui t'arrangeaient pour imposer une vision bien spécifique de la société américaine.
À la défense du mec, moi je suis d'accord avec toi sur ce point, ouais. Notamment sur Obama, mais à la défense du mec, le problème c'est qu'à un moment donné, on arrive littéralement à la fin du film, en fait, à ce moment-là, si tu veux, c'est-à-dire que la naissance, on va dire, du mal, enfin la façon dont il a géré le truc à ce moment-là, bah effectivement, il te montre Obama, il passe outre. Non, mais il te le montre. T'as une image d'Arfige, il passe complètement outre. C'est vrai. Et moi-même, ça m'avait choqué, en fait, sur le moment. Je me suis dit, bon, mais il cède pas non plus à l'inverse, à l'angélisme du truc. C'est-à-dire qu'en fait, il l'omet. C'est tout. Et c'est là, en fait, où moi, je pense que ça me va. C'est-à-dire, s'il avait vraiment joué, la carte actuelle de l'angélisme autour du mec, tu vois, il nous manque, machin, etc., etc., ça m'aurait bien gonflé. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pas tellement le souci. Donc, en fait, par omission, moi, ça me dérange moins que, voilà. Et surtout, encore une fois, pour assumer un parti pris, donc je pense qu'on le sait, c'est-à-dire que si tu connais la carrière encore une fois d'Adam McKay, c'est assez évident que c'est la direction dans laquelle il va aller.
La boîte de production Annapurna, on connaît ses affiliations.
Les putains de gauchistes.
Non mais je veux dire, Will Ferrell, Brad Pitt, tu sais très bien, tu les vois en photo, t'es sur leur compte Twitter, tu vois bien avec qui ils traînent dans le monde politique. Mais c'est ce côté, je suis dit, ambigu de, on fait le biparti, c'est de la blague, et en même temps je vais être partisan, tu vois, qui est problématique. Après, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a des choses très réussies, il y a du culot notamment sur un plan narratif. On a un générique en plein milieu du film qui arrive vraiment, voilà, qui te met une claque et qui te réveille et tout, et on retrouve tout ce travail de montage très puissant qui était à l'œuvre sur The Big Short. Donc c'est bien de le rappeler.
David.
Ouais, moi je voudrais revenir un peu là-dessus, parce que je pense effectivement que c'est un film partisan assumé. Je reviens sur ce que disait Stéphane. Effectivement, le carton au générique de départ dit ce film est inspiré de faits réels et il peut y avoir autant qu'on peut en savoir parce que Dick Cheney était un politique très secret, mais on a quand même beaucoup bossé bordel. Enfin, il y a un truc qui aussi installe l'ironie et le positionnement du film. Je pense que c'est un film qui, de fait, a très bien conscience de qui sera son public, et c'est pas un film qui peut retourner des électeurs de Trump ou des électeurs de Bush à l'époque, qui de toute façon ont leurs convictions bien ancrées, et c'est un film qui va plutôt provoquer de la colère et de l'énervement chez des spectateurs effectivement plus libéraux qui vont aussi chercher du divertissement. Et moi, c'est ça aussi qui m'a quand même intéressé dans le film. En fait, je pense que les deux derniers films d'Adam McKay en sont une démonstration. Je pense que la comédie est peut-être la meilleure école de cinéma. C'est, en fait, faire de la comédie, c'est d'un point de vue technique, en termes de rythme, en termes de construction, en termes de montage, c'est une manière de, enfin, une forme de sublimation de l'art. C'est pas étonnant que des Chaplin ou des Buster Keaton ou plus tard des Woody Allen, en fait, aient démarré avec cette problématique de comment on fait rire le spectateur et derrière aient eu les capacités de faire des œuvres qui allaient au-delà de ce parti pris de départ qui est déjà extrêmement ambitieux. Et alors moi, je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses intéressantes dans le film et dans le montage et qui en fait relèvent d'une liberté totale. C'est-à-dire que, et finalement, on le voit pas si souvent que ça au cinéma, pouvoir se dire je peux faire tout avec le film à condition que ça serve le propos que j'ai envie de défendre et que ça serve la scène que je suis en train d'installer. Alors moi, je trouve que par exemple le coup du générique qui débarque au milieu du film, c'est peut-être pas le truc le plus original qui est fait, parce que pour le coup, je me rappelle plus où j'ai vu ça, mais j'ai dû le voir deux ou trois fois déjà dans
des
films.
Oui, après tu peux voir ça dans un Quentin Dupieux ou sur la connerie, mais sauf que bon, là lui il l'utilise.
Et là il y a un truc.
Tu l'as vu dans le Gaspard Noé peut-être.
Notamment Gaspard Noé. Et après il y a pas mal de choses effectivement dans le montage. Il y a la scène, par exemple, où Dick Cheney va essayer de convaincre Bush de le prendre comme vice-président, mais selon certaines conditions, et il utilise le montage d'une des passions de Dick Cheney, de la pêche.
Comme métaphore.
Et il y a la métaphore de l'hameçon en même temps.
Il y a un truc d'Oliver Stone.
Il y a un truc, un moment où ils sont dans un restaurant et le serveur vient leur lire la carte de tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour contrôler
Alfred
les
Molina,
États-Unis.
Ouais,
Alfred Molina en plus. Il y a plein d'idées sur un moment, il y a un raccord avec les pieds de Bush qui tremblent au moment où il annonce la guerre en Irak et qui fait un raccord sur un mec qui se fait bombarder de l'autre côté. Voilà des détails comme ça qui sont extrêmement efficaces dans la manière dont ça sert le propos.
Et agressif, quoi.
Et agressif. Et effectivement, ce que tu as dévoilé sur le cœur est extrêmement puissant et violent dans le film. Et il y a aussi un truc que je trouve intéressant qui est pareil dans l'écriture et dans le montage général du film, c'est que une des seules lignes sur lesquelles on crée de l'empathie sur le personnage, c'est et qui est même définie comme ça dans le film, c'est, il dit, il y a une ligne à ne pas dépasser, c'est je vais pas utiliser l'homosexualité de ma fille en politique. Et le film va jusqu'au fait que finalement il l'utilise pour son autre fille. Et c'est un moment où on se retourne même encore plus violemment contre le personnage en disant, non seulement c'est un énorme connard qui a eu un rôle dramatique dans l'histoire de l'Amérique, mais en plus, sur les lignes, sur ce que, en tant que personnage, il a lui-même défini dans le film, il est même pas capable de respecter ça.
Et c'est le seul point d'empathie que le film propose avec le personnage, effectivement, qui est cette, la question de l'homosexualité de sa fille. Qui, encore une fois, est une question certainement très partisante. Il y avait peut-être d'autres points d'empathie pour des gens plus conservateurs.
Ouais, alors, mais celui-là, il est dramaturgiquement au niveau de l'écriture.
Non, il est ultra puissant. Il est fort.
Surtout que c'est un point d'empathie qui est utilisé pour le pilonner encore plus. Mmh. Donc, il aurait pu avoir d'autres méthodes. Mais moi, je trouve ça du coup très très puissant et surtout inventif et original. Mais ça reste du cinéma, c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage mise en perspective.
Et tu perds pas l'aspect séduisant du personnage, c'est-à-dire de connard séduisant aussi. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il a un certain charisme aussi. C'est ça que tu veux pas lui enlever, quoi.
Julien,
moi, je suis un peu obligé de répondre à Raph. Du coup, là-dessus,
alors les zadistes contre.
Moi, j'adore le film. Et en fait, j'adore le film parce que il y a un truc que j'ai pas vu en fait au cinéma politique depuis très longtemps, qui était un peu dans votre Big Short. Mais justement, je vais expliquer pourquoi, en mon sens, il y a une avancée chez Adam McKay depuis The Big Short, qui est le côté à la fois lanceur d'alerte, on va dire à la Oliver Stone, qui n'est pas un truc, à mon sens, où on te dit là ça va mal, qui est un truc qui te dit il faut être vigilant, en fait. Mais ça, je vais revenir plus tard. Et en même temps, défouloir. C'est-à-dire qu'il y a un côté comme ça aussi dans le film où tu défoules en t'amusant. Et il y a quelque chose de vivifiant, en fait, là-dedans, qui te dit putain, il faut que tu te remettes debout, et puis en même temps je te propose un punching ball, quoi, en fait, mais pas un punching ball qui va te rendre totalement apathique, parce que là effectivement ça aurait été un problème. Et là où je trouve que le film, je peux pas rentrer, si tu veux, dans le débat politique sur les points, comme toi j'en aurais pas les capacités et ni les connaissances, mais il y a quand même un truc qui me semble démarqué par rapport à The Big Short, c'est que The Big Short me semblait justement assez contraint par le contexte, en fait, qu'il avait été expliqué, ce qui était assez logique, parce que c'était tellement compliqué qu'il pouvait pas sortir de ça.
C'était désincarné, en plus.
Ce truc,
la problématique n'était pas incarnée par un homme, je veux dire.
Quand même. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Big Short, mais là, ce qui m'intéresse personnellement, enfin c'est comme ça, moi, après que j'ai vu le film, c'est que c'est un film sur Dick Cheney, très clairement. Il y a des figures qui te rappellent à ça, mais le film s'appelle pas Dick. Non. Il s'appelle pas Cheney, il s'appelle Vice. Et c'est ça, moi, ce qui m'a plu, en fait, dans le film, c'est qu'il, à mon avis, il explose, en fait, les contours politiques qu'il te présente. C'est-à-dire que Dick Cheney, le fait qu'il te soit présenté comme une espèce de une espèce de bourrin vampire, en fait, et avec des images extrêmement marquantes. C'est-à-dire que il y a tout ce jeu sur le fait que tu vois jamais vraiment les yeux. Enfin, il cache du coup le regard très souvent de Christian Bale. Il y a une image, moi, qui m'a extrêmement marqué avec la musique qui est une espèce de fanfare où il est dans la brasure de la porte du bureau ovale, et puis il est en train de guetter et tout comme ça. Et on t'explique, en gros, enfin moi c'est comme ça que j'ai pris le film, après, que de toute façon il y avait quelque chose de vicié, en fait, dans l'exercice du pouvoir pseudo-démocratique américain, parce que le pouvoir ne s'exerçait pas par les gens, en fait, qui avaient pignon sur rue, mais par des mecs qui étaient derrière, et qui, de toute façon, et c'est là, en fait, où moi j'ai du mal à accuser Adam McKay d'être de toute façon partisan, qui est de toute façon un mec apolitique. Je veux dire, comme tous les vrais gros connards et tout comme ça, il n'a aucune conviction. C'est ce qu'on te montre, en fait, Dick Cheney. Et je pense que c'est la réalité. Le mec, il s'en fout. Il va pas plutôt à droite ou à gauche ou machin. Il est juste là pour vampiriser, parasiter tout ce qui est autour de lui, y compris son propre corps, y compris le corps des autres, y compris la famille et l'amour qu'on lui donne et qu'on lui entoure, y compris sa femme qui est pourtant plus talentueuse que lui. Au début, tu te dis, bon, elle est plutôt dominante, en fait, par rapport à lui. C'est elle qui est le puppet master, en fait. Moi, je me suis dit ça un moment, et puis en fait, non, le film te retourne aussi ça au bout d'un moment. Et c'est un truc, en fait, sur les coulisses du pouvoir, et qui, en fait, en coulisses, effectue, en fait, et à l'origine, en fait, du mal. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai vu. C'est-à-dire que, à partir du moment où le film va beaucoup plus dans la parabole et dans la métaphore, à mon sens, hein, que The Big Short, qui tenait plus du thriller documentaire, je sais pas comment dire ça, thriller économique.
Ouais, c'est de même limite un film de casse, en fait, dans leur logique.
C'est ça, avec un truc, mais c'était un vrai truc, on te posait tout. Là, c'était moins dans l'exposition d'informations que dans l'exposition d'un mode de fonctionnement. Donc c'est là où, oui, il y a manifestement, tu l'as démontré, il y a des mensonges par omission. Est-ce que c'est vraiment grave?
C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu attends en fait du film? Est-ce que tu attends une démonstration que Dick Cheney est un enculé?
Surtout, c'est même pas du Michael Moore, le film.
J'en suis pas sûr. Quoi,
je rejoins Julien sur cette imagerie, parfois extrêmement gothique, et à l'inverse, parfois aussi extrêmement subtile, je dirais, notamment lorsqu'il a enfin accès à son premier poste à la Maison Blanche, et on le voit dans la pièce la plus triste du monde, hein, une pièce sans fenêtre, etc. Et on te le montre, enfin, jouir de la situation et ce contraste entre la pièce dégueulasse, enfin, le truc déprimant et la jouissance du personnage te fait comprendre ce que c'est que l'amour du pouvoir, quoi. C'est-à-dire
c'est là que ça va se faire. C'est dans ce placard où personne ne le voit.
Donc oui, je suis là-dessus d'accord. Moi, effectivement, il y a des omissions qui m'ont choqué par rapport à ce qu'on peut connaître du personnage, enfin, tout son travail pour Ali Burton, c'est pareil. Hein, c'est...
Ma question, en fait, c'est qu'est-ce que va provoquer un film comme Vice, en fait ? C'est ça, c'est sur quoi ça t'alerte, sur quoi ça te bouscule ? C'est un film pour l'avenir, c'est pas un film sur le passé, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui te dit, voilà comment ça s'est passé là.
De toute façon, c'est un film qui parle du présent aussi.
Et voilà pourquoi ça a été la merde, quoi. Donc faites attention à ce qui peut se passer à l'avenir. Donc ce qui peut se passer à l'avenir, c'est plus général que ça, en fait. C'est là où, à mon avis, Adam McKay a pris... pour moi, c'est le signal qu'il a pris son envol en tant que vrai réalisateur politique, ce qu'il a encore une fois toujours été. Hein. Mais je pense que quand il est... Moi, c'était un peu mon inquiétude sur The Big Short. The Big Short, c'est un peu un film à thèse, en fait. C'est-à-dire qu'il est limité dans les événements qu'il raconte à ce moment-là. J'ai du mal, quand je vois The Big Short, à essayer d'appliquer ce qu'on me montre là à un autre modèle. C'est possible, hein, bien sûr, et puis tu le fais. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le sens même, la finalité, en fait, du film. Moi, dans Vice... Encore une fois, Vice, enfin voilà, c'est ça pour le coup. Oui, c'est un truc où on me montre un mode de fonctionnement et qu'aurait pu être, je sais pas moi, celui de la cour de Louis XVI, j'en sais rien. Et ça t'invite en fait à réfléchir à ce qui se passe
intérieurement. Et en plus, dans l'arc narratif général du film, c'est le vice, c'est la substitution du vice du pouvoir qui va remplacer le vice de l'alcool sur lequel s'ouvre le film. Et en fait, c'est presque le subterfuge qu'a trouvé sa femme. C'est lui trouver une alternative.
Bah, vice-président.
Oui, parce qu'on n'a pas, depuis le début, on n'a pas précisé pour ceux qui sont totalement ignorants de la politique américaine que Dick Cheney était le vice-président de George Bush.
Et donc la personne qui devient président si par exemple le président meurt.
Par exemple.
Tous les grands dramaturges politiques, on va dire ça comme ça, et à commencer par Oliver Stone, c'est des mecs qui mentent. Hein. Oliver Stone, il est connu pour tordre la vérité selon ses objectifs, selon ses machins et tout. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça réduit la portée de son film? Est-ce que ça réduit la portée d'un film comme JFK? Moi, je pense pas. En fait,
c'est les mêmes reproches qui étaient faits d'ailleurs à Oliver Stone à l'époque de JFK, hein, c'est-à-dire que d'arriver de balancer Monsieur X au milieu et de faire en sorte que on résume le truc en 3 minutes, quoi. Tu
vois. Enfin, l'Oliver Stone de cette époque aurait fait un film sur Antonin Scalia qu'on aperçoit une demi-seconde dans le film plutôt que sur Dick Cheney.
Pour terminer, les amis, parce que ça fait déjà 4h55 que nous parlons, on va faire comme toujours, j'exagère bien sûr, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation. On peut rester dans le domaine du film politique si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple, Stéphane Moïsakis, c'est un grand film politique, je suppose, dans la reco aujourd'hui.
Quand Christian Bale a gagné le Golden Globe, tu sais comment ça se passe, la cérémonie, là, il monte sur scène, il remercie tout le monde, et là, en l'occurrence, il a remercié le diable. Et bon, tu sais comment ça se passe, ce genre de truc, il coupe le truc, et du coup, en fait, on a bien vu qu'il a pas eu le temps de remercier une autre grande figure du mal, qui est le serpent d'Anaconda, dont il s'est vraiment inspiré aussi pour jouer le rôle, tu vois. Et effectivement, Anaconda, qui est un grand film politique sur la façon dont le matriarcat prend la place de plus en plus sur le monde, cette représentation du serpent comme ça qui ouvre sa grande bouche grande ouverte comme ça, qui avale le masculin absolu qui est John Voight, voilà.
Le mal.
John Voight qui disparaît comme Christian Bale derrière son personnage totalement. Hein, donc il faut voilà, il faut le dire aussi quoi.
C'est vrai qu'il incarne aussi le serpent. Enfin, on le dit pas. Enfin, donc, c'est
on le dit pas. C'est souvent. Rôle, ça dépend des versions. On sait pas tout sur ce film. Hein.
C'est vrai.
Et il faut creuser, le revoir, l'analyser, le voilà quoi.
Aussi, il y a beaucoup de zones d'ombre.
Donc
Anaconda.
C'est la source d'inspiration de Christian Bale.
Essentiellement.
Aussi. Oui, Satan
et Anaconda. Et Anaconda. Le serpent. Voilà. Très bien. Rafik.
Là, moi, le gros politique, on a présenté dans le cadre du ciné-club de nos ciné, Les Fils de l'Homme, la semaine dernière. Et j'ai fait diffuser avant le film un court-métrage que Alfonso Cuarón avait fait pour la promotion de la stratégie du choc de Naomi
Klein. Avec son
fils. Voilà. Ouais. À peu près à l'époque où notre ami Dick Cheney est en train de mal faire. Donc j'invite les gens à taper stratégie du choc Alfonso Cuarón sur Google et aller regarder ce court-métrage.
Oui, il est dispo en ligne. Ouais, tout à fait. Court-métrage, il est assez saisissant, effectivement. David.
Moi j'ai deux petites recos. Une première qui rebondit sur ce que disait Julien sur les cinéastes menteurs, qui pour moi en fait même le mensonge est même la base du cinéma. Et du coup je voudrais recommander un film réalisé par un mec qui aime pas trop les voleurs et les fils de pute, c'est F for Fake d'Orson Welles.
Orson Welles, tout à fait.
Parce que justement, c'est un film sur lequel, enfin, faut souvent revenir justement sur la manière dont on fabrique des récits en fait au cinéma et la manière dont on fait mentir ce qu'on montre. Voilà, c'est l'histoire. C'est assez complexe à expliquer, mais c'est l'histoire d'un faussaire.
C'est irracontable et c'est absolument indispensable.
Il faut regarder ça. Et
pour l'art du montage. Hein,
c'est génial.
Et sur l'art du montage et jusqu'où on peut aller, etc.
Il a inventé YouTube. Non, mais c'est vrai, c'est un essai YouTube en 1960.
De travailler la narration.
Mais il y a plein de YouTubers qui ont dit qu'ils avaient été principalement inspirés par ce truc d'Orson Welles.
Et le deuxième, c'est on a un peu évoqué Michael Moore et en fait il a sorti un film récemment qui est sorti directement en VOD en France, ça s'appelle Fahrenheit 11/9, sur lequel il revient sur l'élection de Trump, sur l'échec de la campagne d'Hillary et d'un certain nombre de trucs autour de ça. Moi, ce qui m'intéresse avec Michael Moore, c'est la manière dont, quels que soient les sujets qu'il travaille, il finit toujours par revenir aux sujets qui le touchent directement et à la ville de Flint. Et alors, je trouve que, clairement, il commence à être un petit peu fatigué, même dans ses stunts et ses idées de situationnisme ou de mise en scène. Il a un peu perdu de ce qu'il avait il y a quelque temps. Mais le film est pas inintéressant et à regarder, bah, comme tous les films de Michael Moore en particulier, tous les films en général avec un esprit critique. Mais il est disponible sur Amazon Prime Video, donc pour les gens qui sont abonné, en plus il est disponible directement.
Julien.
Voilà. Alors moi rien à voir, en fait je voulais terminer sur une note plus légère.
Bien sûr.
Et conseiller un petit film de Adam McKay, peut-être moins connu en fait que les autres, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Good Cop Baby Cop, qui est un truc qui était sur Funny or Die, qui est donc la plateforme qu'il a co-créé avec Will Ferrell, si je ne m'abuse. Donc c'est un film où on voit sa fille et lui il joue dedans. On voit sa fille et en fait c'est le truc du bon flic mauvais flic, sauf que le mauvais flic en fait c'est joué par la petite fille qui est toute petite. Je sais pas à quel âge elle a.
Ouais, elle a même pas 2 ans.
Ouais, c'est un peu plus parce qu'elle parle bien et tout. Elle doit avoir 3 ans, un truc comme ça, mais qui donc est en train de maltraiter Will Ferrell, qui est en plus génial quoi dedans.
C'est elle déjà qui faisait la nana qui vient chercher son loyer.
Celle
du loyer, c'est la première vidéo de Funny or Die, il me semble, ou une des toutes premières.
Donc voilà, c'était pour terminer sur une note un peu plus logique, puis surtout rappeler le talent de comique d'Adam McKay.
Voilà. Bien sûr, notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre, merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles, puis on vous dit évidemment à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.